Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nicolas Dose accueille les experts.
Guillaume Poitrinal, chef d'entreprise et fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Il a publié « Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action » chez Stock. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, auteur du « Libéralisme stratège contre le chaos du monde » chez Odile Jacob. Énormément de réactions d'auditeurs à tout ce qu'on s'est dit en première partie. Crypto Vims m'écrit 12% de fonds propres pour les réserves des banques, certes, mais dans la crypto, cela ne serait pas suffisant, donc c'est un mauvais argument, d'après lui. La différence, c'est que les banques sont renflouées avec nos impôts quand ça couaque. Ah, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas une opération banque centrale pour venir sauver FTX ou Binance, même si Binance était en difficulté. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, dans beaucoup de pays, il n'y a pas eu de renflouement des banques. Il y a eu des garanties apportées en cas de problème. Par exemple, en France, le sauvetage des banques, comme on dit par Nicolas Sarkozy, n'a pas coûté à l'État français. Mais ça a rapporté quelques 2 milliards d'euros. On ne le répétera jamais assez. Tout le monde s'imagine que ça a coûté. Le montant était astronomique, hein, quelques 340 milliards d'euros de garantie publique. Pas d'argent décaissé par l'État.
C'était bien fait.
Le
CDR a coûté plus cher à l'époque, 20 ans avant.
C'était la structure de défaisance du Crédit Lyonnais. Economaniac m'écrit... Les travaux sur le Carboscore sont en cours à l'ADEME depuis quelques années. C'est très compliqué, mais c'est en cours. Voilà.
C'est pour ça que je disais qu'on peut le faire sur les produits intermédiaires, parce qu'il y en a moins. Et déjà, ça obligerait les entreprises à s'activer.
Il faut arrêter avec cette idée, parce que là aussi, j'ai des tweets avec cette
idée. Vous êtes trop près, Guillaume, ça boum, boum, boum.
Il faut arrêter avec cette idée que finalement, en fait, c'est très difficile de calculer le carbone. En fait, c'est assez facile. C'est assez facile. Et nous, dans le bâtiment, on a les fiches déclaratives d'empreinte, les fiches FDES dans lesquelles. Et donc, la plupart, aujourd'hui, des fournisseurs de matériaux du bâtiment vous livrent le matériau avec son score carbone, avec sa fiche carbone. Alors après, tout le monde se critique en disant, attendez, le béton, on fait semblant que le sable vienne à 30 km alors qu'il vient d'un peu plus loin. Peu importe, le mensonge est modeste, mais on a ce chiffre. C'est très possible, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, on m'a dit là qu'il y avait plusieurs carbon scores qui étaient privés, hein, qui sont en train de se mettre en place, un petit peu à la mode des Nutri-Score, un petit peu à la mode de Yuka. Vous savez, il y a le site Yuka qui vous dit si oui ou non ce produit sur le truc est dangereux pour la santé. Donc il y a des choses qui sont en train de... Ce qu'il faut, c'est une régulation. Pour le coup, il faut une régulation. Il faut que sur le pot de confiture ou de shampoing, vous ayez le gramme de carbone sur l'empreinte de vie du
ça, ça ouvre d'ailleurs, mais je ne développe pas, mais le capitalisme ne peut fonctionner que dans un monde régulé. Parce que le capitalisme sans régulation s'auto-mange.
Normalement, la principale régulation du capitalisme, Christian Saint-Etienne, c'est le risque de faillite. C'est ça qui régule le capitalisme.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller jusqu'à la faillite pour attendre de voir si nous sommes mal gérés.
Bon, je suis d'accord qu'il y a certains secteurs, notamment on parlait des cryptos, un secteur encore très neuf.
Si c'est le bar du coin, ça va, mais si c'est une boîte qui emploie 10 000 personnes, on ne peut pas attendre la faillite pour voir que c'était mal géré.
Hervé écrit, si vous tenez compte de l'amortissement prix kilowattheure versus essence, une électrique est moins chère qu'une thermique, ça dépend du prix du kilowattheure.
Oui, mais il y a eu une étude publiée récemment là, qui montre que l'électrique est moins chère pour les toutes petites cylindrées. Les grosses cylindrées d'électrique, les grosses voitures, une grosse BMW électrique est aujourd'hui plus mauvaise pour l'environnement qu'une petite thermique.
L'empreinte carbone de l'ensemble du cycle de vie. Voilà. Le problème, c'est que Bruxelles a décidé qu'il regardait l'empreinte carbone de l'électrique à partir du jour où le conducteur tourne la clé, démarre sa voiture, mais c'est pas l'ensemble du cycle de vie.
Ça, c'est favorable aux Allemands et défavorable aux Français.
Joël pense comme vous, le problème est surtout que pas grand monde ne voit le mur devant nous. Les pénuries de pétrole vont commencer et on va devoir faire une transition encore plus rapide que celle prévue. C'est un peu l'état d'esprit de ce que vous me dites.
Absolument, et c'est là où je pense que Jean-Marc Jancovici a raison sur. Alors moi, je suis pas d'accord sur la fin du chapitre parce que lui est un apôtre de la décroissance et je pense que la seule solution possible, c'est la croissance verte. c'est-à-dire une révolution schumpeterienne de toute l'économie pour passer le plus vite possible au bas carbone. Lui, il dit que de toute façon, il y aura la décroissance et qu'on finira avec 1000 euros de moins sur tous les salaires.
J'aime pas le terme décroissance, Guillaume Poitrinal, mais qu'il y ait un appauvrissement avant qu'il y ait une croissance verte, ça me semble un petit peu écrit.
On ne sait pas, on va voir. Il va y avoir des centaines de milliards d'euros d'investissements dans toutes les entreprises. Moi, je les vois là, dans les grosses entreprises. Aujourd'hui, elles sont en marche.
Je suis d'accord.
Et attention, ce sont pas des petits investissements. Béton bas carbone, c'est pas un petit investissement. L'usine qui doit tourner avec moins d'énergie, etc., c'est pas un petit investissement.
Même les cimenteries, là, ils mettent en place des technologies où sous 3 ans, ils réduisent l'empreinte carbone de 40%.
Guillaume me contredira sans doute pas. Si on veut se passer du ciment Portland du jour au lendemain, je suis désolé, mais le mètre carré à construire est plus cher.
C'est pas vrai.
Comment ça se
Alors j'en suis. Alors là.
Vous êtes un professionnel.
Puisque il se trouve que dans le groupe que je dirige, nous produisons 1000 appartements par an en région parisienne et nous avons en chantier 350 000 mètres carrés de bureaux bas carbone, construits pour l'essentiel avec du matériau bois, des bois lamellés collés contre croisés, et nous les livrons. Et nous les construisons au même prix que les immeubles en béton, et nous les vendons au même prix que les immeubles en béton. Donc on n'est même pas le Tesla. J'adorerais qu'on puisse être Tesla.
Et
nous avons les marges de tout le monde.
En fait, quel échec, Guillaume.
Nous avons les marges de tout le monde.
Guillaume, question insidieuse, est-ce que votre bois lamellé vient de France?
Il vient pour une petite partie de France, notre industrie n'est pas là. Donc chez Monsieur Pifto en Vendée, magnifique usine de CLT dont nous prenons une très grosse partie de la production, et puis sinon ça vient des usines autrichiennes et allemandes, parce que eux ont compris c'était l'avenir des matériaux de construction.
Stratégie dans la filière bois en France.
Absolument.
Où il n'y en a pas depuis 30 ans.
Ah mais ça, la filière bois, il y a une carence énorme dans notre pays, d'autant qu'elle est normalement puissante, cette filière bois. Mais
on a la ressource.
Potentiellement.
Nous, on a la ressource. Le bas carbone en immobilier, c'est principalement des matériaux biosourcés. En France, on a la ressource parce qu'on a une forêt magnifique, et on a tous les promoteurs qui se sont mis quasiment tous en même temps au bas carbone. Donc non seulement WO2 pour s'en poser, mais aussi Nexity, Bouygues, BNP, ICA, tout le monde s'est mis au bas carbone. Et entre les deux, il manque l'industrie.
Ce sont les chiffres de cet auditeur, moi je ne les ai pas vérifiés. Michel m'écrit, une Tesla Model 3, c'était 37 000 euros en 2022 après les primes, soit moins qu'une 508, dit-il. D'où la ruée vers ces voitures qui, par ailleurs, sont d'excellents produits. Bon, on va faire un débat sur...
Aujourd'hui, la moins chère, elle doit être autour de 60 000 euros, même plus.
Ah, quand est-ce que vous faites plaisir, Jean-Marc Jancovici sur le... Écoutez, chaque fois que je lui ai envoyé des SMS, il m'a jamais répondu. Donc c'est compliqué. Il n'est pas facile à faire venir, Jean-Marc Jancovici. Voilà, le compromis trouvé. Le chef des députés Modem, Jean-Paul Mattei, était très attaché à un amendement qu'il voulait accrocher à la loi de finances pour 2023 qui consistait à taxer. Donc, la fiscalité, ce qu'il a appelé les superdividendes. Il a considéré qu'on pouvait parler de superdividendes, là c'est vraiment son point de vue. Il a considéré que c'était quand on était 20% au-dessus de la moyenne des 5 années précédente. Bercy veut pas entendre parler de taxation, n'aime pas le signal de la fiscalité. Donc un accord a été trouvé, un compromis, plutôt que de taxer ces dividendes lorsqu'ils sont super. Eh bien, lorsqu'ils sont constatés, l'idée est d'imposer qu'il y ait un surcroît de participation, d'intéressement ou des primes exceptionnelles pour les salariés des entreprises concernées. Alors maintenant, une expertise technique est en cours pour savoir comment inscrire ça en texte de loi à la deuxième lecture du projet de loi de finances, dans la mesure où, en théorie, ça voudrait dire modifier le mode de calcul de la participation. Mais modifier ce mode de calcul, ça impose de modifier le code du travail. Et un projet de loi de finances n'est pas là pour modifier le code du travail. Donc on rentre vraiment dans la cuisine. Il y a toujours parallèlement des discussions entre les partenaires sociaux pour essayer de faire émerger ce fameux dividende salarié, date butoir fin janvier, et Renaissance a confié à son secrétaire général adjoint, l'eurodéputé Pascal Canfin, une mission sur ce thème du partage de la valeur pour apporter des réponses de moyen et long terme. Christian Saint-Etienne, l'idée de dire qu'il y a des années exceptionnelles où il doit donc y avoir un partage exceptionnel du profit, sans passer par la taxation.
Alors, tout ce débat vient de 3 entreprises. Total, Engie et CMA-CGM. CMA-CGM, les super profits disparaissent cette année, puisque le transport des conteneurs de Chine en Europe, qui était autour de 700 à 800 dollars, était monté à 5000 dollars.
Ou même plus.
Et il est redescendu.
Mais on n'est pas au niveau d'avant.
Mais il est fortement redescendu. Et ensuite, Engie et Total. Donc on va mettre en place une... machinerie d'une complexité inouïe qui posera d'énormes problèmes pour trois entreprises. Donc, à la limite, pourquoi pas faire comme les Espagnols ou les Italiens, faire une taxe spéciale pour les entreprises concernées. Sachant que, pour Total, c'est beaucoup plus complexe puisque les activités de Total en France sont déficitaires.
Alors, donc, pas en 2021. Ouais,
avec le raffinage.
Pas en 2022.
Qui a un peu plus gagné.
En 2021, oui.
Mais sur les 10 dernières années, ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais surtout, ça pose un autre problème qui est que une entreprise qui a été en difficulté, qui n'a pas versé de dividendes pendant 3 ans et qui se refait la cerise et qui recommence à donner des dividendes, est-ce qu'on va prendre quelle base pour repartir? Donc on voit bien la complexité du sujet. Donc à la limite, il aurait mieux valu avoir une taxe exceptionnelle sur les 3-4 entreprises énergétiques concernées pour ne pas avoir la mise en place d'une chaufferie avec des milliers de tuyaux.
Bon, on est encore là sur un sujet avec une dimension très politique, parce qu'il est bien sûr hors de question pour la majorité de s'aliéner le soutien du MoDem. C'est pas possible. Or, c'est un combat, une petite croisade qui est menée par le patron des députés MoDem à l'Assemblée. Donc évidemment, on va trouver probablement de la tuyauterie un peu compliquée pour faire plaisir à tout le monde sans envoyer le mauvais message de la taxation. On y est arrivé, hein, pour les producteurs d'énergie hors gaz, avec l'histoire de la captation de la rente inframarginale pour ces gens subventionnés pendant de très nombreuses années. Dans les contrats, il est prévu qu'ils reversent en fait de l'argent passé un niveau de rentabilité du mégawattheure, ce qui est aujourd'hui largement le cas avec les prix que nous avons atteints. Une autre, je vous ferai.
Parce que c'est quand même
pas trop long, parce que je voudrais qu'on parle
très rapidement. C'est un mal français. L'anti-dividende, c'est un mal français. Dès qu'il y a un dividende, on trouve que c'est suspect. Le dividende de ces grosses boîtes, il est généralement issu de profits qui sont réalisés à l'étranger. Est généralement reversé à des actionnaires qui sont à l'étranger parce que, pour une raison que vous connaissez, nous n'avons pas de fonds de pension et que notre assurance vie va financer le déficit de l'État au lieu d'être investi dans les entreprises. Le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, si on veut gagner de l'argent sur ses profits, il faut payer du dividende. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, l'impôt sur les sociétés, il est à l'étranger, principalement. Et que si on capitalise en fait ces profits à l'intérieur de la boîte, on va créer de la plus-value boursière et que cette plus-value, elle n'est pas taxée en France. Elle est taxée aux États-Unis, elle est taxée en Hollande. Quel est le seul moyen d'aller choper de l'argent pour l'État sur Total, sur Engie, etc. Eh bien, c'est tout simplement de leur laisser distribuer un maximum de dividendes. Pourquoi ? Parce que le dividende, en France, d'ailleurs, il est fiscalisé avec un impôt magnifique qui s'appelle la retenue à la source. Quand vous êtes un étranger et que vous investissez dans une entreprise française, sachez que votre dividende, avec la retenue à la source, est fiscalisé de 20 à 30% suivant les conventions. Et il est fiscalisé à l'euro, au cul du camion.
Un actionnaire comme BlackRock, qui investit dans une entreprise française, est fiscalisé.
Personne ne le sait. C'est très amusant d'ailleurs, parce que les journalistes économiques l'ont oublié, etc., dans leur truc. Refaites de la fiscalité, ça s'appelle la retenue à la source sur les dividendes. Tout non-résident, c'est sur les non-résidents, donc actionnaires non-résidents d'une entreprise française, eh bien, quand le dividende passe la frontière, quand le dividende s'exporte, il y a une taxe de Bercy qui va, suivant les conventions fiscales, de 15 à 30% à peu près. D'accord ? Ce qui veut dire qu'un dividende de 10 milliards à peu près de Total, il y a 1 milliard qui rentre dans les caisses de Bercy. Donc moi, je suis franco-français, je suis pour qu'il y ait un maximum de dividendes parce que je sais que c'est la seule manière pour Bercy d'aller fiscaliser des profits qui sont issus d'entreprises étrangères, de filiales étrangères. Il faut donc que les filiales rapatrient leurs dividendes sur les sièges parisiens et ensuite le distribuent à l'étranger et que Bercy prenne sa dîme, une dîme la plus importante possible.
Bon, eh ben écoutez, l'argument s'entend. C'est un argument de plus sur les dividendes. C'était dans Les Échos le 8 novembre, Christian Saint-Étienne. Vous y signez régulièrement des chroniques. Celle-ci s'intitulait « Le sacre de Xi ». Alors, Xi Jinping, bien sûr, nous concerne tous. Quel était le message à retenir ?
D'abord, nous sommes plongés dans le conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis.
Très clairement.
Ces deux pays, c'est aujourd'hui ensemble 42% du PIB mondial et 60% des dépenses militaires mondiales. Ce sont deux acteurs, ce sont deux sumos dans un combat à la vie à la mort, hein, même si aujourd'hui même Xi Jinping et Biden se rencontrent à Bali pour la première fois physiquement, néanmoins ce conflit il est sur la table pour les 20 prochaines années. Aucun des deux ne va poser le genou à terre, ils veulent absolument pour les États-Unis rester la première puissance du monde et pour la Chine le devenir. C'est le conflit classique depuis Athènes et Sparte entre une puissance dominante et une puissance ascendante. Donc dans ce conflit, on a un acteur qui est Xi, qui a pris tout le pouvoir en Chine. Alors il faut comprendre la nature de la révolution Xi. Elle vient après les 40 années qui ont été dominées par la constitutionnalisation paradoxale du système institutionnel chinois. C'est-à-dire que Deng Xiaoping, qui avait terriblement souffert à titre personnel de ce qui s'était passé sous Mao Tse-tung, a dit deux choses. Plus jamais de personnalisation du pouvoir, plus jamais de livre rouge qui s'impose à tout le monde comme doctrine unique, et même un troisième élément qui était il faut toujours avoir une direction collective. Qu'est-ce que fait Xi Jinping quand il arrive? Également, ce qu'avait fait Deng Xiaoping, ce qui semble totalement hallucinant, c'est d'introduire une partie du système américain à l'intérieur du Parti communiste chinois. Il a, à partir des années 80, les leaderships chinois étaient élus pour 5 ans. Pas à l'intérieur du Parti communiste, mais ils étaient élus pour 5 ans, renouvelables une fois. Donc au maximum 10 ans. Et il faut bien se rendre compte que la Chine, c'est aussi complexe que l'Europe. Entre le nord de la Chine, le sud de la Chine, l'est et l'ouest, il y a autant de différences qu'entre la Scandinavie et la Sicile. Donc il y a des clans très différents et ce système de pouvoir permettait de servir tout le monde. Donc Xi fait sauter tout ça, ils centralisent tout le pouvoir, mais les clans existent encore. Ils ferment leur gueule parce qu'ils sont écrasés, mais ils attendent l'erreur de Xi. Hein. Donc ça va être sportif de voir ce qui va se passer en Chine dans les 5-10 prochaines années. Et puis, par ailleurs, il fait ce que Deng Xiaoping ne voulait surtout plus jamais, c'est-à-dire le livre rouge. Donc la pensée de Xi a été constitutionnalisée. Alors on pourrait se dire ici, on s'en fout, ça veut dire quoi? Ben, c'est un pays quand même de 400 millions d'habitants. Et aujourd'hui, enfin, ça fait depuis 2018 que tous les journalistes passent par un système de formation de 6 mois où ils apprennent par cœur les principaux éléments de la pensée de Xi. Et tout le système politique est calé sur la pensée de Xi. Donc, il y a une personnalisation du pouvoir dans une dictature qui s'est durcie de façon totalement hallucinante et obsessionnelle. Et tout ça au cœur d'un projet stratégique de la Chine de déboulonner les États-Unis comme puissance dominante sur la planète. Et des États-Unis qui ne veulent pas renoncer au titre de première puissance. Alors il faut bien comprendre que dans tout ça, et j'en termine par là, l'Europe, c'est l'enjeu. L'Europe, c'est 20% du PIB mondial, et ils viennent ici pour, au fond, quel est l'enjeu? Les États-Unis dominent à peu près 1 milliard. Sur les 8 milliards d'habitants de la planète, vous avez 3 milliards d'habitants qui ont un fort pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat moyen ou fort. Les États-Unis en contrôlent 1 milliard, la Chine en contrôle 1 milliard. Ils se battent pour le troisième milliard qui donnera la supériorité à la fois dans le monde du numérique, dans le monde de tous les échanges stratégiques et qui leur donnera le primat sur le plan géostratégique. Donc nous, en Europe, nous sommes l'enjeu du conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Une Europe qui, en dépit de tous les discours, reste un acteur impuissant. C'est une masse inorganisée en puissance, contrairement à ce qu'on dit. Et tout ce qu'on fait, c'est réguler, mais il n'y a pas de volonté stratégique. On l'a illustré aujourd'hui dans cette émission. On aurait pu dire, on va faire le traçage carbone des voitures électriques depuis le moment bien où sûr. On a construit les batteries jusqu'au moment où les batteries sont déconstruites. C'est pas ça qu'on fait en Europe. On fait le calcul du carbone lorsqu'on tourne la clé dans le contact. Donc voilà, on a une Europe astratégique, stratégique, sans vision stratégique, sans pensée stratégique, dans un monde où vous avez deux super prédateurs qui veulent prendre le contrôle de la planète. planète.
J'entends bien l'analyse. Après, je me demande si des solutions, nous pouvons en trouver en Europe.
Et... si on peut en trouver, moi, je serai conseiller du président de la République. D'abord, sur 5 à 7 ans, je double les dépenses militaires.
Parce,
parce que les dépenses militaires, c'est aussi un élément de la réindustrialisation. J'agirai massivement sur la décarbonation pour ne pas dépendre du carbone importé, ce qui suppose de relancer la construction de barrages électriques, ce qui suppose des mini-barrages, pas des barrages de serpenson. Ça suppose un investissement colossal dans le logement pour réduire l'empreinte
carbone. Et dans le nucléaire.
Pour réduire l'empreinte carbone du logement, réinvestir dans le nucléaire, réinvestir dans le photovoltaïque. Voilà, donc on peut construire des politiques stratégiques structurantes, mais comme il n'y a pas de volonté stratégique à la tête de la France, on est dirigé par un type brillant, mais qui a pas de vision stratégique. Je donne une illustration. Dans son premier mandat, il supprime la taxe d'habitation, coût cumulé sur le quinquennat 40 milliards. Et au même moment, il demande à Cédric Villani de produire un rapport sur l'intelligence artificielle. Il met 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle sur 5 ans. 40 milliards sur la taxe d'habitation, 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle. Moi, je serais au pouvoir, j'aurais fait l'inverse.
Ouais. Alors après, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Après, des décisions ont été prises, mais alors le calendrier de ces décisions, c'est opérationnel 2030-2035. C'est loin. 2030,
ah oui, mais là, ça 2035. Enclenche
Ah ouais, mais c'est loin.
Le comportement des entreprises.
Une autre proposition de loi est en préparation, Guillaume Poitridal. Il s'agit pour une fois de dire que les propriétaires doivent aussi avoir des droits face aux locataires indélicats. On verra jusqu'où va ce texte de loi. Est-ce qu'il va jusqu'à donner une vraie capacité coercitive à un propriétaire pour évacuer un locataire qui squatte, car des histoires comme ça se multiplient. En tout cas, il s'agit aussi de soutenir les locataires dans leur quête, tout simplement, pour faire se faire payer correctement leur loyer tous les mois.
Les propriétaires, vous voulez dire?
Les propriétaires, les propriétaires,
bien sûr. Non. La France est le pays qui protège le plus le locataire et qui martyrise le plus le propriétaire. Et après, on s'aperçoit, on se dit, c'est terrible parce qu'il n'y a plus d'appartements à louer pour la classe moyenne. Ils sont obligés d'aller dans le logement social. Je la fais extrêmement courte, tout simplement parce que l'appétence, en effet, fait des investisseurs pour faire du bail, privé, est très très ralenti par cet arsenal de protection en fait du locataire qui est unique au monde. On avait fait, je me souviens, une étude pour savoir où est-ce que il y avait un arsenal de protection du locataire défaillant aussi puissant dans le monde. On n'a pas trouvé. Donc
il y en avait en Scandinavie qui a été effacé,
Absolument, absolument. Il y en avait autrefois et puis ensuite ça a été effacé tout simplement parce que les gens se sont dit en fait la meilleure régulation possible, c'est d'avoir plus d'offres.
Voilà,
tout simplement. Et si on a plus d'offres, eh bien les loyers baissent tout simplement parce que les propriétaires se font de la concurrence. La seule condition que demande le propriétaire, c'est qu'en effet, quand le loyer n'est pas payé, au bout d'un certain temps, on puisse évincer le locataire défaillant. Ça, c'est possible dans tous les pays. En France, c'est extrêmement difficile et ça va jusque, vous savez, l'État a accepté de se faire condamner en fait pour ne pas évincer les gens. Donc, on peut obtenir des indemnités de l'État, ce qui est extrêmement compliqué. Et puis, l'exécution d'un jugement d'expulsion. Je vous souhaite vraiment bonne chance parce qu'il faut que le commissaire en lui-même finalement juge qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, etc., etc. Donc en fait les expulsions en France elles sont extrêmement rares et ça pose un grand problème.
On a une ligne un peu dominante anticapitalisme dans la réflexion générale en France sur les questions économiques notamment. Généralement, on n'aime pas l'actionnaire, on n'aime pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est un riche et le locataire, généralement, est une victime.
Et fausse parce qu'en fait, on s'aperçoit que les meilleurs payeurs, c'est les familles modestes et que ceux qui abusent du système sont généralement des gens assez éduqués, qui connaissent toutes les procédures juridiques pour pouvoir contourner le système. Et en fait, c'est la classe moyenne, c'est certaines personnes, pas tous heureusement, de la classe moyenne qui abusent du système.
Ça a été l'un des messages du week-end. Bruxelles a très largement révisé, on terminera par ça, 3 minutes 30, très largement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2023 pour la zone euro. L'été dernier, la Commission espérait 1,4% en 2023, désormais elle espère 0,3%. Elle considère que nous allons basculer en récession dès le quatrième trimestre 2022. Et parmi les pays de la zone euro, le PIB de l'Allemagne désormais est attendu à -0,6% en 2023, après +1,6% en 2022. Et vous nous dites tous les deux ce matin que 2023 peut se passer beaucoup mieux que prévu.
Ah oui, tout le monde boira du noir. C'est très lié, bien sûr, à la crise de l'énergie qui avait commencé avant l'Ukraine, l'invasion russe le 24 février. Mais justement, revenons à l'Ukraine. Le fait que Kherson revienne dans les mains des Ukrainiens, si vous regardez la carte, depuis le début, je me disais que le Dniepr est une frontière naturelle entre les pro-russes et les pro-européens. Surtout, quand vous remontez vers le nord grâce aux victoires de l'armée ukrainienne et que vous avez presque plus que les oblasts de Donetsk et celui qui est à côté, plus la partie qui est le long de la mer d'Azov. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir une réflexion sur jusqu'où on va mener cette guerre à coup de mort ukrainienne. Et vous voyez que la réflexion aux États-Unis s'intensifie, puisque ce sont les Américains qui financent l'essentiel de l'effort de guerre ukrainien. Et les Américains s'interrogent sur le fait de siffler à la fin de la partie, parce qu'ils se rendent compte, les Américains, que par rapport au conflit entre la Chine et les États-Unis, le problème de l'Ukraine, c'est d'envoyer la Russie du côté chinois, et que ça, c'est très mauvais pour les Américains. Donc, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. C'est-à-dire que tout à coup, alors que les négociations entre l'Ukraine et la Russie ont échoué à plusieurs reprises, elles finissent par conduire à un cessez-le-feu. Et tout à coup, on va se regarder, on va se dire, mais finalement, où sont les problèmes autres que l'Ukraine ? Les entreprises sont pas très endettées, les ménages ont du cash, pas les ménages les plus pauvres, mais en moyenne, les ménages ont du cash. La guerre d'Ukraine s'arrête et que les prix de l'énergie se dégonflent, on pourrait parfaitement avoir, dans 6 mois, la Commission européenne qui dise « Ah, ben j'avais prévu 4, puis j'ai dit 0,3, puis finalement, ça va être plus 2. »
On a 58 secondes, c'est la fin, Guillaume Poitrinal. Vous vous dites qu'effectivement, si l'Ukraine, la guerre en Ukraine, connaît un changement radical, c'est tout simplement toute l'année 2023 qui est modifiée.
En fait, on n'a que des indicateurs au rouge, mais ils peuvent passer au vert assez rapidement. On peut passer à une économie mondiale plus stabilisée, issue de la paix, une énergie en effet qui baisse, j'espère pas trop pour les hydrocarbures et le charbon, vous l'aurez compris, mais en tout cas un coût de l'énergie qui baisse très clairement, et puis une ère post-Covid où en fait tout le monde revient à une consommation post-Covid, à un tout petit peu plus d'activité post-Covid, parce qu'on a encore des secteurs, je pense au cinéma, je pense à un certain nombre de cinémas, qui continuent à fonctionner en dessous en fait de 2019, et ça je pense que progressivement ça devrait rejoindre quand même malgré tout la normale.
On avait eu ce débat un jour avec Jean-Marc Daniel, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, si rien ne se passait comme prévu en 2023, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine faisait pause et que l'économie chinoise repartait, c'était pas effectivement moins 0,1 ou moins 1%, mais peut-être plus 3, plus 4% voilà. De croissance. Notamment
on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, on n'est pas à l'abri d'une très bonne nouvelle, et comme on est juste avant Noël, c'est le message de ce lundi.